Une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Bonjour et bienvenue dans votre série de l'été, un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Nous allons nous plonger ensemble dans de grandes affaires criminelles françaises, du 19e et du 20e siècle. Je vous emmène à Paris, au 36 Quai des Orfèvres. Je vous emmène à Paris et dans la France entière. Certaines d'entre elles sont des affaires célèbres. Toutes ont défrayé la chronique et portent leur part d'une histoire plus vaste. Bien plus qu'un crime, bien plus qu'un criminel. C'est la société, l'histoire des hommes et des femmes dans leur époque qu'elle raconte. Je vais vous emmener aujourd'hui dans l'un des plus beaux domaines aristocratiques de France. Plus qu'aristocratique, princier, je dirais. Ce domaine, c'est celui de Chantilly. Nous sommes au nord de Paris, à une quarantaine de kilomètres. Le domaine de Chantilly, on le connaît surtout aujourd'hui. Les amateurs et les torfistes le connaissent pour ses courses hippiques. Mais il n'y a pas que l'hippodrome, il n'y a pas que les courses à Chantilly. Il y a le château des princes de Condé. Un château qui est aussi un musée. Son dernier propriétaire y a réuni des collections d'art, de peinture. Mais pas seulement. L'une des plus belles collections de livres rares aussi. Et des bijoux. Et des pierres précieuses. De grande valeur. De très grande valeur. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un vol. Un vol extraordinaire. Mais pas le vol d'un tableau, non. Non, le vol d'un diamant. Un diamant d'une valeur inestimable. Nous sommes le 3 juin 1926, un jeudi. Il est 6 heures du matin. Un cri retentit. Ce n'est pas la peur ou la douleur. Non, non, c'est un cri pour donner l'alarme. Ça vient de la tour ronde, celle qu'on appelle aussi la tour du trésor. C'est un homme qui hurle, affolé. Il appelle. C'est le gardien du château, l'un des deux gardiens qui assure le service de nuit. Il décroche le téléphone. Il appelle le conservateur du musée. L'homme est installé dans le domaine. Il a son logement dans une maison toute proche. Les gardiens descendent. Ils actionnent le pont pour que le conservateur puisse passer. Ce n'est pas un pont-levis, non. On est plus au Moyen-Âge quand même. C'est un pont tournant qui permet d'isoler le château. Les gardiens le ramènent toute la nuit et le château devient une île au milieu des douves. Une île à l'abri de toutes les intrusions. Enfin... en principe. Voilà, le conservateur est déjà là, devant le pont, puis dans la tour du trésor. Il est devant la vitrine. Le conservateur, il se fige. Puis il reprend ses esprits et il décroche le téléphone.
Allô ? Allô, pourriez-vous me mettre en communication avec la préfecture ? Et rapidement, vite !
2 heures plus tard, une voiture s'immobilise devant le château, devant les douves. 3 hommes en sortent. Ils ont fait la route depuis Versailles. Ce sont les hommes de la première brigade mobile, les brigades du Tigre. L'inspecteur Février et l'inspecteur Lespinasse. Et le troisième, c'est l'expert, Jacquemart. Il transporte une valise, sa valise, avec son matériel. Et on n'a pas intérêt à y toucher. C'est un maniaque, Jacquemart, mais c'est un magicien. Il fait des miracles avec sa valise. Les deux inspecteurs, voilà, ils sont dans la tour, avec le conservateur. Ils désignent une armoire vitrine, dont le verre a été soigneusement découpé, et le contenu, vidé.
Messieurs, ce qui a été volé est sans doute l'un des plus beaux joyaux français.
Ce n'est pas un simple vol de bijoux dans une bijouterie ou chez un grand joaillier, place Vendôme, chez Boucheron ou Cartier. Non, ce qui a disparu, ce sont des dizaines de bijoux précieux, des bracelets, des colliers ou des pierres, émeraudes, saphirs, rubis, diamants. Le conservateur leur présente un dossier. L'ouvre, il y a des photos, mais surtout une photo. Ça n'a pas l'air grand. Ça fait combien ? Un peu plus de 2 centimètres. Mais c'est grand pour ce que c'est. Et c'est un diamant rose. Ce diamant, le maître des lieux de l'époque l'a reçu du roi de France au XVIIe siècle, en 1643, après la bataille de Rocroi. Ce diamant, Louis XIV l'a offert au prince de Condé, à celui qui se fera bientôt appeler le Grand Condé. Il avait mené les armées du roi à la victoire. Raison pour laquelle on l'appelle le Grand Condé, précise le conservateur. Ce joyau, c'est un morceau d'histoire et une pièce de joaillerie hors du commun. Il vaudrait, le conservateur a dit un chiffre, ils ne sont pas certains d'avoir bien entendu, 5 à 6 millions de francs, soit aujourd'hui plus de 3 300 000 euros. Ophévrier et Lespinasse ont l'habitude de ne pas laisser paraître leurs émotions, ça c'est le métier, mais là quand même. Février hausse les sourcils, brièvement, il se pince les lèvres, c'est presque imperceptible. Lespinasse fait un « discret », mais qui veut dire quand même que c'est quelque chose, un diamant à 5 millions. Oui, ça va les changer de leurs habitudes, aux deux inspecteurs, ça va les changer des cadavres. Les hommes de la brigade vont se mettre au travail. Il ne faut toucher à rien. Laissez tout en l'état. Jacquemart va pouvoir se mettre au travail. Il a posé sa valise. Ses instruments sont prêts. Ses préparations. Un pinceau, une poudre, légère, grise. Il a enfilé des gants. Il passe son pinceau délicatement sur les montants de l'armoire, sur les vitres. Il se tourne vers Février, derrière lui. Il a l'air d'être content, Jacquemart. Il y a des empreintes, inspecteur. Beaucoup. On aura ce qu'il faut pour le labo. Il me faut les empreintes des gardiens aussi. Il y a une porte-fenêtre double qui donne sur un petit balcon. Elle est entrouverte. La douceur de ce matin d'été pénètre dans la pièce. Il y a une odeur de terre et d'herbe humide, légère. L'inspecteur Février est devant la fenêtre. Lespinasse le rejoint. Il y a un trou, un cercle dans le verre, soigneusement découpé, à quelques centimètres de la poignée. La fenêtre est doublée par des volets intérieurs, deux panneaux de bois qu'on peut fermer par une espagnolette. L'un des deux panneaux est troué, lui aussi. Février passe le doigt, avec précaution, en prenant garde de ne rien toucher. Il ne faut pas détruire les indices. Il essaye, on y passe le doigt, on atteint l'espagnolette, on pousse, on soulève, et voilà, les panneaux s'ouvrent, Lespinasse approuve, ouais, du beau travail. Le voleur ou les voleurs se sont attaqués à la vitre, puis au panneau de bois, et ils sont entrés. Mais ça ne dit pas comment. Comment sont-ils parvenus sur le balcon? Février se glisse dehors, Lespinasse le suit. Il y a plus de 4 mètres, certainement. En dessous, sous le balcon, l'eau, les douves. L'un des côtés du balcon, il y a moyen de monter par là. Il y a un terre-plein. On peut adosser une échelle, non? L'appuyer contre le côté du balcon ou jeter un grappin, puis se hisser avec une échelle de corde, peut-être. L'inspecteur Février s'attarde encore. Il réfléchit. Son regard se perd de l'autre côté des douves. Reste que je me demande comment ils ont traversé. Le pont mobile ne peut être actionné que depuis le château. Avec une barque? Une sorte de radeau? Mais il n'y a rien. Ils auraient traversé à la nage? Non. Non, il y aurait de l'eau, des traces sur le parquet, et il n'y a rien. Depuis son observatoire, sur le balcon, Février a le regard attiré en direction du champ de course, du côté de la tribune. C'est à plusieurs centaines de mètres. Oh, il ne distingue pas grand-chose. On dirait un attroupement. Février prend son collègue par le bras. Il doit y avoir un problème. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Lespinasse se tourne vers Jacquemart, agenouillé sur le parquet. Il passe chaque centimètre à la loupe. Jacquemart, c'est pas vous qui êtes amateur de course? Jacquemart se redresse, à peine. Ah, il n'aime pas être dérangé, surtout quand il se concentre, comme là. Jacquemart grogne. Dimanche, il y a le prix du Jockey Club. Février, ça ne l'arrange pas, ça. Il leur faut le domaine pour eux, leur investigation. Ils doivent pouvoir les mener sur tout le domaine, le château, le parc et le champ de course, le temps qu'il faudra. Bon, ben j'appelle la préfecture. Il faut qu'ils annulent ça tout de suite. Et qu'ils débarrassent le plancher s'ils veulent qu'on le retrouve, leur diamant du Grand Condé. Jacquemart applique encore de la poudre sur les carreaux, sur les fenêtres. Il y a des empreintes. Manifestement, ils ou ils n'ont pas employé de gants. Et ça, c'est une chance, non? Enfin, il faut encore que le labo trouve une correspondance avec les fichiers. Les fiches de l'identité judiciaire à éplucher une à une. Jacquemart, il peut faire des miracles, mais bon, il faut pas pousser tout de même. Et les deux inspecteurs, ils sont descendus. Ils sont dehors, ils sont au bord de l'eau. Les spinasses écartent soigneusement les buissons. Ils cherchent quelque chose. La nuit a été humide. La terre, les parterres ont dû garder des traces de pas. Des traces de ses pas, non? De leurs pas. Des traces de pas peut-être, oui, mais peut-être aussi autre chose. Les spinasses se baissent, s'accroupissent. Ils désignent deux renfoncements dans la terre. Les pieds d'une échelle. Une échelle et des pas. Les traces de deux hommes. Deux hommes au moins. Il va leur falloir des empreintes, des plâtres. Ils vont avoir besoin de Jacquemart. Février réfléchit. Il sort son paquet de cigarettes, ses gauloises. Il en prend une, la porte à ses lèvres, tend son paquet à l'espinasse. Il réfléchit, Février. Comment sont-ils arrivés ici avec une échelle? Sur une voiture? Sur une camionnette? Jacquemart, il est formel. Il n'y a pas la moindre trace de pneu. Qu'est-ce qu'il en pense, l'espinasse?
Oh, ils ont dû la trouver ici, sur place.
Ouais, mais ça veut dire qu'ils comptaient dessus, non? Ils ne sont pas arrivés en se disant, pourvu qu'on trouve une échelle, quand même. Il fait son l'espinasse, comme d'habitude. Ça veut dire qu'ils pensent tous les deux la même chose, ou à peu près. Qu'il y a une piste qu'il ne faudra pas négliger, celle d'une complicité dans le domaine, et peut-être même dans le château, non? L'espinasse est parti, il s'éloigne. Au-delà du pont, le parc s'étend et les bois à perte de vue. L'espinasse est accroupi, le gazon fraîchement tondu perd ses dernières traces de rosée. Il est tondu, mais c'est imperceptible, presque, mais par endroits, l'herbe. L'herbe est légèrement rabattue. Ouais, elle a été foulée, il y a peu. Et pas par eux. Février, l'espinasse, Jacquemart, ils ont rejoint le château par le sentier. Des pas. Ce sont des traces de pas. Et puis il y a mieux, plus loin, deux trous, des renfoncements, carrés. Les pieds d'une échelle, peut-être, lourde, manifestement. L'espinasse se retourne. On les appelle depuis le château. C'est le conservateur.
Un coup de téléphone pour vous!
Il a l'air tout en affaire, le conservateur. Février y va, l'espinasse reprend son exploration. Il suit les traces. Sur quelques dizaines de mètres, il y a encore des marques, carrées, une échelle. Ils l'ont posée. Ils ont continué. Ils l'ont posée. Ils regardent aux alentours. Ça prend la direction du fond du parc, très loin. Peut-être là où il y a la petite gare du champ de course. La fin de la journée approche. Les deux inspecteurs et Jacquemart avec sa valise magique. Ils montent dans la voiture. Ils prennent la route de Chantilly, la ville. Ils ont réservé des chambres dans un petit hôtel. Leur enquête a commencé. Commencé seulement. La première brigade mobile se met au travail. Ils reviendront le lendemain et le surlendemain s'il le faut. Poursuivre les recherches avec des hommes, plus d'hommes, tout ce qu'il faudra. Ils vont demander du renfort. Une brigade de gendarmerie pour attisser le parc et les bois aux alentours. Il ne faut rien laisser échapper. Ah oui, il va y avoir du travail. Sauf qu'il faut se presser un peu. Février fait un demi-sourire. En fait, pas vraiment un sourire.
L'espinasse, vous ne devinerez jamais qui j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Le président du Jockey Club, mon vieux. Le duc de la Rochefoucauld en personne. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a dit, ce monsieur très respectable. Ce monsieur m'a dit, le prix du Jockey Club se court le premier dimanche de juin, pas un autre jour, depuis 1836, et qu'il n'y avait pas de raison que ça change. Et il m'a demandé, disons, de nous presser un peu, quoi. Bon, en gros, si je traduis, de libérer les lieux pour dimanche. Et, eh bien, nous sommes déjà jeudi soir. Alors je lui ai répondu que nous ferions au mieux, l'espinasse. Mais j'ai quand même ajouté que l'histoire de France tirerait sans doute moins de gloire du prix du Jockey Club que de la victoire de Rocroi. C'est juste, non ?
la première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous parle d'un vol historique. Des dizaines de bijoux ont été dérobés dans le domaine de Chantilly, au château des princes de Condé. Mais surtout, surtout, un diamant rose d'une valeur inestimable. L'inspecteur Février et l'inspecteur Lespinasse des fameuses Brigades du Tigre sont sur le coup. Et ils sont venus avec Jacquemart, l'expert de la brigade, pour les aider à faire parler ce qu'on appelle aujourd'hui une scène de crime, pour rassembler des indices. Et des indices, il y en a. Des empreintes, partout. Des traces de pas dans le parc, celles de deux hommes et celles d'une échelle. Et voilà qu'une question se pose, est-ce que les auteurs du vol n'ont pas bénéficié de complicité dans le domaine? Et pourquoi pas dans le château? L'affaire dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui nous emmène dans la France de l'entre-deux-guerres, au cours des années 20. Nous sommes au mois de juin 1926. Pour beaucoup, c'est une période d'insouciance et de réjouissance. Quelques années plus tard, on parlera, les historiens en parleront, comme des années folles. L'Europe de l'après-guerre connaît une croissance économique extraordinaire. Est-ce qu'on n'a pas toutes les raisons de retrouver son optimisme? De se réjouir? De se divertir? Et puis, il y a Miss Tinguette. Il y a Joséphine Baker qui danse le Charleston ou Folie Bergère. Est-ce que Paris? Est-ce que Bruxelles ne chante pas avec Maurice Chevalier? Dans la vie, il faut pas s'en faire.
Dans la vie, il faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas.
De l'insouciance, oui. Oui, pour quelques années encore. Pour quelques années seulement. Jusqu'au crack de 1929 et la crise des années 30. Mais revenons à ce mois de juin 1926. Le signalement du vol du diamant rose, ce diamant qu'on appelle aussi le Grand Condé, a été diffusé par les soins de la Sûreté Générale. Partout, à tous les commissariats des grandes villes, aux postes frontières et auprès des polices des principales capitales européennes et sur les grandes places où se négociait le diamant. À Anvers, à Londres, sur Hatton Gardens. Mais revenons dans l'Oise, à Chantilly. Les deux inspecteurs accompagnés de Jacquemart ont quitté leur hôtel de bonheur. Ils ont du travail. Et puis, il n'y a pas de quoi s'attarder. La literie est tellement mauvaise qu'on préfère se lever. Quant au petit déjeuner, le café ressemble à de la lavasse. Pourtant, c'est Lespinasse qui a réservé l'hôtel. Et question bon lit et bonne table, en général, on peut compter sur lui. Ce qui m'arrive, à moi, Février, j'ai pris ce qui restait. Chantilly est pris d'assaut par les jockeys et leur équipe, sans parler des propriétaires, des éleveurs et des turfistes. Ils sont tous là pour le week-end. Nous sommes le vendredi 4 juin. Les recherches se poursuivent, dans le parc, les bois, sur le champ de course. Les gendarmes sont arrivés de Senlis. Ils se sont déployés de mètre en mètre. Commence un lent, long ratissage des lieux. Février dirige les recherches autour du château. Il est au bord des douves. Il donne des ordres. On sonde, on écarte les roseaux. Qu'est-ce qu'il cherche, l'inspecteur Février? Un peu de tout. Un outil, une corde, un vêtement. Le moindre indice, tout simplement. Tout est bon à prendre. Tout serait bon à prendre. Il a demandé un scaphandrier. Et le scaphandrier est là. Et une pompe pour l'oxygène. Il y a deux gendarmes qui pompent. Le scaphandrier réapparaît péniblement, ses chaussures lestées de plomb. On l'aide à remonter. Deux hommes le hissent au bord de l'eau. On lui retire son casque. « Alors ?» demande Février. « On n'y voit rien là-dedans. » On n'y voit rien. Par contre, on dirait qu'on dérange les carpes. Elles ont l'air affolées. Février soupire. Il n'y a rien à en tirer de tout ça. Il renvoie le scaphandrier à l'eau pour un dernier tour. Et voilà le conservateur qui s'approche. Il a l'air agité, de nouveau, comme la veille. Enfin, encore plus agité. Il fait un signe en direction de l'intérieur, du château.
Téléphone ! Une communication, inspecteur !
Ah ben voilà, il se dit, Lespinasse. On dirait bien que ça y est. Si ce n'est pas le président du Jockey Club, c'est peut-être le préfet. C'est jamais.
Mais ce n'est pas le préfet, non. C'est le patron. C'est le patron qui appelle de Versailles. Et il a l'air embarrassé, on dirait. Ça sent l'intervention en haut lieu, ça, non?
Février, on dirait que ça chatouille notre ministre, le vol du Grand Condé. On nous demande de presser un peu.
Février perd patience. Patron, c'est le ministre qui nous demande de nous manier le cul ou c'est le Jockey Club? Le commissaire de la première brigade mobile le connaît bien, Février. Il a son caractère, l'inspecteur. Et heureusement, ça vaut mieux qu'une chiffre molle, non? C'est ce qu'il a l'habitude de répondre quand on lui demande comment il peut tolérer ce genre de mouvement d'humeur de la part d'un de ses hommes. À part ça, il annonce à l'inspecteur Février que le préfet a fait envoyer une nouvelle brigade de gendarmerie. Ils viennent en renfort pour accélérer les recherches sur le domaine. Février n'a rien contre, non, bien sûr. Peut-être même que le président du Jockey Club a le bras assez long pour faire envoyer l'armée, d'ailleurs, hein, pour qu'on la termine, notre petite enquête.
Bon, et puis une dernière chose,
ajoute le patron.
Mais ça va pas vous plaire, hein. Enfin, encore moins, disons. Pourtant, j'ai exprimé mes réticences, vous me connaissez.
Le ministre fait envoyer la Sûreté Générale, un commissaire, le commissaire Marlier.
Il doit vous accompagner dans l'enquête, Février. Vous savez, le Grand Condé appartient au patrimoine de la nation, enfin, vous comprenez, je suppose. Et le ministre se sent quelque peu contraint, enfin, je crois, enfin, en tout cas, je pense.
Il n'écoute plus, Février. Il est fatigué, oui. Ça fait beaucoup pour la journée. Ils vont avoir un gars de la Sûreté Générale dans les pattes, et un commissaire en plus, auquel il va falloir faire des salamalecs, auquel ils devront rendre des comptes. Il salue, il raccroche, et il soupire. Il n'a même pas envie de jurer. Il n'en a pas la force, tout simplement. Le monde est mal fait. Et la police, c'est encore pire. Pourquoi? Mais pourquoi il faut toujours qu'on se marche sur les pieds? Mais la journée est-elle si mal engagée? Eh bien, peut-être pas, non. L'espinasse, où est-il, l'espinasse? Il revient du fond du domaine, au-delà du champ de course. Il est avec Jacquemart, et il a l'air content. Guilloret même. C'est qu'il apporte une bonne nouvelle, l'échelle. Ils ont réussi à remonter sa trace dans l'herbe, puis les sentiers. Mais jusqu'où? La gare du champ de course. Ça ne fait aucun doute. Les pieds de l'échelle sont pleins de terre. Enfin, je devrais dire, des échelles. Ils n'ont pas employé une échelle, mais deux. Une pour atteindre le balcon, mais l'autre. L'autre pour servir de passerelle, pour traverser les douves, certainement. Elles avaient retrouvé leur place, manifestement, suspendues dans un hangar attenant à la gare. Ils, les auteurs du vol, ils les avaient soigneusement remises là où ils les avaient trouvées. Trouvées. Ce qui vient aussitôt à l'esprit de l'espinasse, comme de Février, c'est un « comment ». Comment savait-il qu'il trouverait des échelles à la gare, dans ce hangar? Et cette autre question revient alors derrière le « comment ». Il y a peut-être un « par qui ». Ce n'est peut-être pas une journée perdue, pas tout à fait perdue. L'équipe, Février, l'Espinasse, Jacquemart, ils quittent le château. Ils retrouvent leur hôtel. Cet hôtel un peu miteux, un genre d'auberge vieillotte. Ça doit être une auberge de chasseurs. Au mur, il y a des papiers peints usés, avec des scènes de chasse à cour. Les moquettes sont usées jusqu'à la corde. Il y a des trophées de chasse au mur, quelques pauvres trophées de chasse. Ils font ouvrir une bouteille, puis une deuxième. Oh, c'est pas un grand cru, mais ça fera l'affaire. Il faut se changer les idées. On est vendredi soir. Il leur reste combien de temps? Un peu plus de 24 heures, ouais. Et ils ne vont pas tarder à avoir des nouvelles du président. Le fameux président du Jockey Club, pour les pousser dehors. Février et l'Espinasse lèvent leur verre. Au duc de la Rochefoucauld et à ses gens foutres du Jockey Club alors. Il n'y a que Jacquemart qui paraît absent. Il reste plongé dans son journal, à la page des pronostics. Alors Jacquemart, le favori? Peut-être bien qu'il mettrait un petit billet, Jacquemart, tiens. Au départ de la course, il y a Songe Doré, à l'Agacan, Beffro, de l'écurie Rothschild, et Biribi. Hein, Biribi? Il a remporté le prix de l'Arc de Triomphe. Il vient de remporter le prix Lupin à Longchamp et le Grand Prix d'Ostende. Et le Royal Oak aussi, il y a deux semaines.
Visiblement, c'est le favori, précise Jacquemart. Mais voilà que leur discussion joyeuse est interrompue par quelqu'un qu'ils n'attendaient pas de si tôt.
Alors, les mobilards, on prend du bon temps?
Les deux inspecteurs et Jacquemart se raidissent. Ils ne sourient plus, enfin si, mais ils se forcent. Il ne faut quand même pas qu'ils pensent qu'il leur fait cet effet-là. Qui? Celui que la sûreté leur envoie. La belle-mère que la sûreté leur met sur le dos. Marlier. Le commissaire Marlier. Nous sommes le 5 juin, samedi. Les recherches ont repris, plus vite. Février et l'espinasse sont nerveux. Et puis abattus. Le préfet de l'Oise, ils viennent d'apprendre qu'il a déjà donné des instructions. Les deux brigades de gendarmerie seront en opération jusqu'à la fin de la journée. Et puis fini. Retour à la caserne. Au moins comme ça c'est clair. Sans l'appui des gendarmes, ils auront du mal à poursuivre leurs recherches. L'espinasse est défait.
Autant dire qu'on nous met dehors, mon vieux.
Le départ de la course est pour demain. Demain, dimanche, ce seront des centaines, des milliers de personnes qui rejoindront le domaine de Chantilly. La tribune est autour et eux, ce sera fini. Et ils n'ont pas grand-chose, non. Les deux échelles, trouvées à la gare, remises à la gare. Des empreintes sur la vitrine et la fenêtre, mais pour l'instant, pas de nom. Pas d'identité sur ces empreintes. Autant dire que ce n'est pas la joie. L'espinasse propose encore un tour du côté du champ de course, une dernière fois. Une cinquantaine d'hommes est déployée. De mètre en mètre, ils vont avancer, ensemble, en ligne, pour tout ratisser, ramasser tout ce qu'ils pourraient trouver. Encore, n'importe quelle petite chose, n'importe quel petit bout de quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec le vol. Ils sont déjà passés, non ? Eh bien, ils vont repasser. Et là, comment ils ne l'ont pas vu? Comment ils ont raté ça? Ce que c'est? C'est un outil à manivelle. Un manche en bois. Une manivelle et une vrille en métal. L'espinasse est revenu vers le château. L'objet enveloppé dans un linge. Il a couru. Il est essoufflé. L'objet est sous les yeux de Février. L'objet, c'est un vilebrequin. Un vilebrequin, ça permet de faire des trous dans le bois. Et voilà comment ils ont ouvert le volet, mon vieux. Ouais, c'est sans doute ça. Ils ont pratiqué un trou dans la fenêtre. Ils ont ensuite pratiqué un trou dans le bois pour ouvrir le volet intérieur. L'espinasse pointe du doigt le manche du vilebrequin. Et c'est pas tout, regardez. Il y a comme un numéro de série dessus. Un numéro de série, c'est ça. AC-234. Quelque chose qui pourrait permettre de remonter la piste de l'usine qu'il a fabriquée et peut-être de la boutique qu'il a vendue et pourquoi pas, de celui qui l'a acheté. Il y a bien un numéro, oui, mais pas d'autre marque. Rien d'autre pour l'identifier. Alors quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Marlier, le commissaire, il en a tout de même une idée très arrêtée.
« Bon courage, messieurs, autant chercher une aiguille dans une botte de foin !»
Et il ajoute pour l'espinasse.
« Et ne songez pas à la presse, inspecteur. Si vous diffusez son signalement de votre vilebrequin, vous pouvez dire adieu à nos voleurs. Ils vont se terrer et disparaître le temps qu'il faudra. »
Voilà, c'est déjà la fin de l'après-midi. Les inspecteurs Février et l'espinasse, Jacquemart, il quitte Chantilly, le château, son conservateur, son champ de course, in extremis. On est bientôt dimanche et le président du Jockey Club est prêt à bondir, à rappeler le préfet, et peut-être plus haut s'il le faut. Ils repartent pour regagner Versailles. L'espinasse, son regard se perd par la fenêtre, le long de la route, le long des arbres, de la forêt qui défile. Il fait son l'inspecteur, quand il est d'accord, mais que ça ne le ravit pas trop. Il n'a pas tort, le commissaire Marlier. Ouais. Sauf qu'il vaut mieux ça que rien. Il vaut mieux un début de piste que rien.
La première.
Un crime, une histoire. 36 quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 quai des Orfèvres, nous revenons sur un vol extraordinaire. Le vol du diamant rose au château de Chantilly. Le vol du Grand Condé, l'un des joyaux les plus précieux au monde. L'enquête piétine, les inspecteurs Février et Lespinasse n'ont aucune piste. Mais le temps presse. Des centaines, des milliers de personnes vont bientôt arriver. C'est que, dans quelques heures, c'est le prix du Jockey Club, l'un des événements les plus importants à la fois mondain et populaire. Et il faut en finir. Les hommes des Brigades du Tigre ont bien quelques indices, des empreintes, les échelles, mais rien de plus. Mais voilà qu'ils font une dernière découverte. Oh, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça pourrait changer le cours de l'enquête. On a retrouvé un outil qui a pu servir aux auteurs du vol. Un vilebrequin avec un numéro de série. Février et Lespinasse sont de retour à Versailles, à la brigade. Ça fait du bien de revoir les collègues. Et puis, le téléphone sonne, c'est le 36. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas la moindre trace des empreintes dans les fichiers du 36. Autrement dit, celui ou ceux auxquels appartiennent ces empreintes ne sont pas fichés. Ils ne sont jamais passés par la police judiciaire. Et la bonne alors? La bonne nouvelle? Lespinasse, votre idée de mettre un avis dans la presse, quoi qu'en pensait le commissaire, c'est bingo. On a reçu une communication d'une fabrique du Bas-Rhin, près de Strasbourg. Le vilebrequin, il vient de chez eux. AC-234. Il vient de chez eux et leurs registres sont bien tenus. Il fait partie d'un lot qui a été livré dans une quincaillerie à Utenheim, à la quincaillerie Ungerer. Saluez donc nos amis alsaciens, inspecteur. Eh bien voilà, ils étaient contents de retrouver Versailles, Février et Lespinasse, les collègues de la brigade. Mais ça n'a pas été bien long. Ils reprennent la route. Et cette fois, ce sera sans Jacquemart. Ils n'ont pas besoin de sa valise magique. Direction le nord-est, ils prennent la direction de Strasbourg. Ils sont attendus par leurs collègues de la brigade mobile de Strasbourg, ceux de la 17e brigade. Ils font les présentations, ils boivent un café, ils en fument une, et ils reprennent la route ensemble, en deux voitures. Les collègues de la 17e leur ouvrent la voie, devant, et ils roulent à vive allure, direction Utenheim. Février et Lespinasse restent en silence. Ils approchent du but, non? Lespinasse a envie de sourire, mais il n'ose pas. Pas encore. C'est le commissaire Marlier qui va peut-être au moins les prendre de haut, non? Enfin, il faut encore que le quincailler, ce Ungerer, ait conservé une trace de l'acheteur de ce foutu vilebrequin. Ils arrivent, il lui montre la photo au quincailler. Oui, il en rentre des comme ça, c'est un modèle courant, mais celui-là, il consulte ses registres. Ça vient d'un lot qu'il a acheté il y a plus de 10 ans, peut-être 15, même plus, allez savoir. Son doigt parcourt des lignes et des lignes d'écriture. Ça prend du temps, énormément de temps. Février et Lespinasse, ils attendent. Ils attendent sans trop en attendre. Ils sont tout prêts, non? Est-ce que la solution du vol du diamant rose n'est pas toute proche, ici, à Utenheim, ou dans les environs? Le quincailler ne trouve pas, on dirait. Mais voilà que son doigt s'immobilise. Les deux inspecteurs retiennent leur souffle. Ils relèvent la tête, le quincailler. Il a une idée, en tout cas on dirait. Son visage s'éclaire. Kaufer, il est venu m'en racheter un il y a 2 jours. Il l'avait perdu, il m'a dit. C'est peut-être le sien sur votre photo. Kaufer, il habite à côté, à la sortie d'Utenheim. L'homme, celui qui le rouvre, il se demande pourquoi il y a des policiers, en civil, qui sonnent chez lui pour lui demander s'il a un vilebrequin. Et qui lui montre une photo en lui demandant « C'est à vous ?» Alors il dit « Oui, je l'ai perdu. » Les inspecteurs de la 17e ont leur idée. Parce que dans le coin, Kaufer, ce n'est pas un nom qui leur est tout à fait inconnu. Est-ce que le fils Kaufer n'a pas déjà eu des ennuis avec la justice? Oh, bah, des petites choses, pense-t-il, mais quand même. Le soir même, Février et Lespinasse sont de retour à Strasbourg dans les bureaux de la 17e brigade. Ils ont appelé le 36 et la réponse ne se fait pas attendre. Parce que quand on a un nom, c'est plus simple pour le fichier. Un nom, Léon Kaufer, et une fiche. Le fils Kaufer, ce n'est pas tout à fait des petites choses. 4 condamnations. Des petits vols, d'accord, oui. Mais aussi 2 cambriolages. Est-ce que cette fois, Février et Lespinasse ne peuvent pas avoir toutes les raisons d'être satisfaits? Cette fois, Marlier, le commissaire, il va peut-être être forcé de moins les prendre de haut. Après, les choses vont assez vite. Février et Lespinasse rentrent à Paris. Le signalement et la photographie de Kaufer sont transmis à tous les commissariats. Transmis, oui, mais avec une mention claire. Signaler, ne pas appréhender. Pourquoi? Pour une raison simple. Les empreintes digitales relevées par Jacques Mar à Chantilly ne correspondent pas à la fiche du 36. Ce ne sont pas les empreintes de Kaufer. Il va falloir jouer serré, Lespinasse. Il faut laisser Kaufer nous conduire à son complice, vous comprenez? Celui qui a laissé ses empreintes sur la vitre. Et Kaufer est bien à Paris. Ça y est, tout peut se mettre en place. Kaufer est filé par les hommes de la première brigade, Février, Lespinasse et d'autres collègues. Ils se succèdent, de rue en rue, de place en place. Kaufer entre dans un hôtel, l'hôtel Suchet. Kaufer est monté à la chambre 29. La chambre 29, c'est un nommé Émile Sauter. Et voilà, Sauter vient de demander qu'on lui monte une bouteille, du cognac. Et du bon, il a demandé. Et 2 verres. C'est la bonne qui monte. Elle frappe à la porte. Derrière, dans le plus grand silence, ils sont là. Février, Lespinasse et ceux de la brigade. Sauter ouvre, les policiers s'engouffrent dans la chambre. Voilà, c'est fini. Février et Lespinasse respirent. C'est fini. Les empreintes de Chantilly correspondent à celles de Sauter. Mais est-ce que cela va suffire? Le diamant, ils ne l'ont pas retrouvé. Malgré une fouille soignée, de leurs affaires, de la chambre à l'hôtel Suchet et de la chambre qu'occupe Kaufer. Une chambre de bonne du côté de la butte aux cailles. Et les 2 suspects, Kaufer et Sauter, ils se taisent. Est-ce que l'enquête menée par Février et Lespinasse va suffire? Est-ce qu'elle va suffire devant un jury d'assises? Les jurés. Que feront-ils? Est-ce qu'une seule empreinte, l'empreinte de Sauter, suffira? Et ce vil brequin, retrouvé dans l'herbe sur le champ de course, c'est peu de choses. Oui. Est-ce que les 2 Alsaciens n'avaient pas pu compter sur des complicités, à Chantilly même, dans le château? Est-ce qu'un bon avocat ne parviendra pas à fragiliser l'enquête et à semer le doute? Mais voilà que, comme par l'effet de la Providence, le téléphone sonne, un matin, dans les bureaux de la première brigade, à Versailles.
Inspecteur Février? Oui, une communication de Paris pour vous, c'est le gérant de l'hôtel Suchet.
Pourquoi il appelle? Pourquoi il appellerait? Il a fait vider la chambre de Sauter. Il restait quelques affaires, oubliées, 3 fois rien. 2-3 objets, vraiment presque rien. Une boîte d'allumettes, un bouton de pantalon et une pomme.
Une pomme, monsieur l'inspecteur. Une pomme plus très belle. Alors Maria, la femme de ménage, elle s'est dit que, de toute façon...
Une pomme. Février s'impatiente. Il a d'autres choses à faire que d'entendre parler d'une pomme. Il y a d'autres dossiers à présent. Alors...
Eh bien, elle l'a mangée. Enfin, elle a mordu dedans. Et vous ne devinerez jamais ce qu'elle a trouvé. Et vous savez, elle aurait pu se casser les dents, hein, monsieur l'inspecteur.
Ce qu'elle a trouvé, c'est quelque chose de dur. Une pierre rose, de 2 cm à peine, joliment taillé. Février en a le souffle coupé, le diamant rose, le grand Condé dans une pomme. Il sourit. Il répète, oui, il répète, dans une pomme. Juin 1927, un an plus tard, le procès des voleurs de Chantilly, des voleurs du diamant rose, le grand Condé, s'ouvre devant la cour d'assises de Beauvais. Le jury rend son verdict après 3 jours d'audience. Léon Kaufer et Émile Sauter sont condamnés à 10 ans de réclusion. Le grand Condé a retrouvé sa place au château de Chantilly quelques mois plus tard. Enfin, pas tout à fait. Ce joyau extraordinaire que les visiteurs admirent encore aujourd'hui dans la Tour du Trésor, ce n'est qu'une copie. Le vrai, lui, il est dans un coffre, bien à l'abri. Faut mieux être prudent. La Momière.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jean-Louis.
Dans cette histoire, on retrouve les fameuses Brigades du Tigre. Mais elles ne s'appelaient pas comme ça à l'époque.
Alors non, elles s'appellent en réalité les Brigades Mobiles. Aujourd'hui, on les connaît sous le nom de Brigades du Tigre, à la suite de cette série télévisée que nous connaissons tous. Cette série télévisée qui met en scène ce fameux commissaire Valentin. Alors, les Brigades Mobiles deviennent les Brigades du Tigre. Pourquoi ? Ça a un fondement en réalité. Parce qu'elles sont fondées à l'initiative du ministre de l'Intérieur de l'époque, Clémenceau, qu'on surnomme à l'époque le Tigre. D'où les Brigades du Tigre.
Mais pourquoi avoir créé ces brigades en 1907.
Alors, en réalité, on est dans un contexte à l'époque d'une certaine insécurité où, semble-t-il, il y a beaucoup de bandes, de voleurs qui restent impunis dans l'espace français. On a la bande Paulet dans le nord de la France, les chauffeurs de la Drôme. Les chauffeurs sont ceux qui brûlaient les pieds de leurs victimes pour qu'ils révèlent la cachette de leurs économies. Les chauffeurs de la Drôme, donc, eh bien, les brigades mobiles vont essayer ils vont parvenir à mettre fin aux activités de ces bandes. Et puis il y a la fameuse bande à Bonneau que nous connaissons tous. C'est également la Brigade Mobile qui va mettre fin à leurs activités.
Merci en tout cas pour cet éclairage, Jérôme, et à très vite.
La première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.